La keynote iPhone 15 et Apple Watch aura lieu mardi prochain, le 12 septembre. Pour ce dernier épisode avant le grand jour, l'équipe d'iWeek vous propose une spéciale avec toutes les dernières infos, toutes les dernières rumeurs, ce qu'elles valent, certaines d'entre elles étant contradictoires.
Alors, les deux analystes, Min-Chi Kuo, on le connaît depuis très très longtemps, mais dernièrement, il est moins fiable qu'avant. Et Luke Lin, moi, je ne le connais pas, donc je ne peux pas trop juger. J'ai entendu, c'est tout à fait officieux, mais ça se dit dans les réseaux, dans nos grossistes, etc., qu'effectivement, Apple pourrait livrer moins d'iPhone que ce qu'il pensait.
Histoire de ne pas attendre pour rien, on vous propose la liste de tous les produits dans les tuyaux qui ne seront pas annoncés le 12, des premiers Mac M3 aux nouveaux iPads en passant par de nouveaux AirPods, Pro ou Max, à une nuance près.
Justement, message simple, tous les AirPods, en dehors des AirPods Max, mais tout le monde s'en fout, passent à l'USB-C, ça, ce serait la classe quand même, une belle slide. Regardez comme on est gentil, on a mis de l'USB-C partout, ouais.
Et puis le bonus hebdo exclusif pour notre communauté Patreon. Cette semaine, Apple acceptera-t-elle finalement de fabriquer de la merde, l'expression était de Steve Jobs, et de sortir un MacBook low cost pour concurrencer les Chromebooks dans le monde de l'éducation? C'est ce qu'avance DigiTimes pour le deuxième semestre 2024. Un bonus à retrouver sur patreon.com/iWeek. Nous sommes le mardi 5 septembre 2023, il est 18h12 et il reste 7 dodos avant la première keynote de la rentrée, la plus vitale sans doute pour Apple en termes de business puisque l'iPhone représente toujours environ la moitié de son chiffre d'affaires total. Apple, tu nous l'as souvent dit Ellie, ne peut pas se louper avec un nouvel iPhone et dans moins d'une semaine on sera fixé sur cette nouvelle gamme iPhone 15 mais aussi sur les nouvelles Apple Watch. Alors, quelle place pour d'éventuelles surprises? Quels sont les produits dont on est à peu près sûr qu'ils ne seront pas annoncés mardi prochain? Voilà le programme de cet épisode 152 d'iWeek, la semaine Apple. Salut mes amis, salut François Le Truédic.
Salut Benjamin, salut Ellie, salut Gilles et salut à tous.
Très heureux de te retrouver François. Salut Gilles Denès.
Salut son capitaine, salut François et salut Ellie. Et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices.
Gilles Dounès, ancien rédacteur en chef de Mac+.net et co-auteur d'iPod Backstage chez Duno. Et salut Ellie Abitbol.
Bonsoir Benjamin, bonsoir la team et bonsoir à tous nos auditeurs et auditeuses.
Co-fondateur de MCS, les Apple Premium Resellers à Nice, Cannes et Aix-en-Provence et président de la cinquantaine d'APR en France. On fait une bise au passage à Fabrice Neumann, l'absent du jour. À suivre, on va peut-être casser vos espoirs, mais soyons réalistes, beaucoup de produits dans les tuyaux ne seront pas annoncés mardi prochain, on va en dresser la liste. Mais tout d'abord, cet Apple Event Wanderlust, on fait le point dans un instant, toutes les dernières infos, les dernières rumeurs à J-7. À tout de suite. C'est un épisode à durée de vie particulièrement limitée puisque tout ce que nous allons dire aujourd'hui sera dépassé dans 7 jours à partir de mardi 12 septembre 19h heure française. On espère d'ailleurs que vous serez au rendez-vous de notre iWeek Live spécial pour suivre cette keynote avec nous. Ce sera en direct et en intégralité, notamment sur iWeek.news dès 18h30 heure française. Alors dans une semaine, plus rien de ce que nous allons dire n'aura d'intérêt. Alors allons-y les amis, avec ces dernières rumeurs et ces dernières infos autour de cette keynote Wanderlust, hein, envie d'émerveillement en français, qui va donc voir officialiser la gamme iPhone 15, mais pas seulement. Bon, d'abord, est-ce qu'on peut, pour être clair, dresser la petite liste de ce qu'on attend lors de cette keynote de mardi prochain? François?
Je vais vous vendre un scoop, un gros scoop. Je pense qu'on aura des nouveaux iPhones.
Non, c'est pas vrai.
Non, on aura le droit à des nouveaux iPhones, on aura sans doute droit à une nouvelle Apple Watch, mais quand je dis une, c'est pas une, c'est deux au final. On aura sans doute le droit à la série 9 et la Ultra version 2, parce que la Ultra, ça va déjà faire un an. Comme tous les ans, on aura sans doute le droit aussi à des nouveaux étuis, à des nouveaux bracelets. Alors c'est surtout du côté des étuis que ça va être intéressant, parce qu'on a évoqué le fait qu'il n'y ait plus de coques en cuir. Et à mon avis, il n'y aura plus de bracelets d'Apple Watch en cuir, parce qu'il y avait déjà des bracelets d'Apple Watch en cuir. Donc ça, ça va être une petite info. C'est très bien, parce que c'était vraiment des coques qui vieillissaient très mal. Et puis, on a évoqué un passage à l'USB-C. Donc, qui dit USB-C dit nouveau câble USB-C. Et ça, c'est plutôt original aussi. On aura le droit à des beaux câbles, vraisemblablement des câbles tressés à l'image de ce qu'on peut avoir déjà quand vous achetez, par exemple, un iMac avec un clavier et une souris, Apple, ou même le Magic Trackpad. Vous avez des jolis câbles USB-C vers... ça y est, j'ai oublié. Lightning, vous voyez, ça y est, j'ai déjà oublié le Lightning.
T'as déjà oublié comment ça s'appelle.
C'est ça.
Tiens, encore une semaine. Tiens, encore une semaine, François.
Il va falloir renouveler tout notre matériel, c'est triste. Et puis, on parle aussi peut-être de câbles Thunderbolt, parce que certains modèles d'iPhone seraient compatibles avec les câbles Thunderbolt.
Ellie.
Grand bouleversement d'ailleurs au niveau des câbles Thunderbolt compatibles USB 4, parce que vous savez qu'aujourd'hui il y a un câble de 80 cm. Eh bien, il semblerait qu'Apple va proposer un câble de 90 cm, spécialement pour les iPhone 15 qui en auront besoin. Attention, 10 cm de plus, attention. Hein. Le prix va augmenter aussi.
Oui, c'est ça. C'est ça, les 10 cm, on va les payer. Alors, on va prendre ces annonces attendues dans un ordre complètement subjectif, mais on va commencer par l'iPhone Star de 2023. À ma grande surprise, on l'a découvert la semaine dernière, c'est l'iPhone Pro Max. On débattait la semaine dernière de l'éventualité d'un changement de nom au profit de l'iPhone 15 Ultra. Fabrice, qui n'est pas là, verrait bien le Pro Max devenir le Pro Ultra. Alors, j'en suis pas sûr, hein, mais c'est vrai que c'est une piste à laquelle j'avais pas encore pensé. D'autres envisagent que le Pro Max cohabite avec un nouvel iPhone ultime, qui serait donc l'iPhone 15 Ultra. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Le Pro Max va-t-il subsister tel quel ? Est-ce qu'il va changer de nom et devenir Pro Ultra ou simplement Ultra ? Ou bien est-ce qu'il va donner naissance à un cinquième modèle dans la gamme, encore mieux doté et encore plus cher ? Gilles, qu'est-ce que tu en penses ?
Je ne pense pas qu'on aura un Pro Ultra. S'il doit y avoir de l'Ultra, je suis persuadé que ça va être le cas. On aura du 15 Ultra, une nouvelle entrée dans la gamme avec une matrice à trois entrées. C'est mon hypothèse il y a un petit moment déjà, dont j'ai parlé à personne. Une matrice à trois entrées. On a du grand public, du pro et de l'ultra. De la même manière qu'on avait du matériel, du logiciel, et on va avoir dessous du service. On a trois entrées. Quand Steve Jobs, en 99, 98, je ne me souviens plus, avait présenté sa fameuse matrice pour éclaircir la pétaudière qui était devenue la gamme Apple, on avait du pro et du grand public à la fois dans le logiciel et dans le matériel.
Et donc, tu proposes de casser la matrice de Steve, mais c'est carrément du blasphème. Hein,
de l'enrichir maintenant qu'on a différents... On a davantage de produits, si, de choses au catalogue.
Ok, mais ça ne répond pas exactement à la question sur le Pro Max. Gilles, excuse-moi de te le dire.
Ça devient de l'Ultra, et de l'Ultra tout court, pas du Pro Ultra.
Donc le Pro Max devient Ultra, le Pro Max disparaît selon toi.
Voilà, avec ses caractéristiques un peu bâtardes. Les gens iront vers l'ultra avec ses caractéristiques haut de gamme. Apple n'a pas pu imposer l'iPhone 14 à grand public avec son grand écran. Il va pas faire la même connerie avec un modèle de milieu de gamme qui ne sera pas aussi attrayant que le modèle de très haut de gamme. Et il va être, ça fera un trou, une dépression dans une gamme qui est déjà assez onéreuse comme ça. Ça m'étonnerait, je ne les vois pas faire cette bêtise-là.
Ellie, question.
J'y crois pas.
Question Ellie, parce que le Pro Max est tellement populaire, est-ce que ce ne serait pas une bêtise de le supprimer et de le remplacer par autre chose ?
Je pense. Moi, je n'y crois pas à l'ultra parce qu'au niveau de l'Apple Watch, il faut bien voir qu'on avait dans les séries 8, hein, donc on avait deux tailles, 41-45, et puis un design totalement différent. Donc, qui était l'Ultra, jusqu'à maintenant l'Ultra 1 en tout cas, puisqu'elle ne ressemblait quand même pas aux autres. Hein, donc, tout était différent. L'écran, l'épaisseur, le bouton, les bracelets, tout était complètement différent. Mmh. Donc, ça voudrait dire que la gamme de l'iPhone, on aurait un iPhone 15, un 15 Plus. Après, on aurait un Pro où il n'y aurait qu'un seul modèle, qui serait le Pro tout court. Et après, il y aurait un ultra, mais qui ne serait pas pro. Alors là, les gens ne comprendraient plus du tout. Déjà que nous, on a eu du mal, je pense que le grand public, là, il ne saurait plus. Donc, Apple n'a pas intérêt à complexifier la gamme. Parce que déjà, on leur reproche aujourd'hui beaucoup qu'au niveau des ordinateurs, la gamme est beaucoup moins claire qu'avant et beaucoup moins claire qu'à l'époque de Steve. Je ne pense pas qu'au niveau de l'iPhone, ils jouent où ils s'amusent à jouer avec les noms, quitte à perdre des clients parce qu'ils ne sauront pas où ils sont et quoi choisir. Donc, il y a beaucoup de gens qui commandent en ligne, hein, qui n'ont pas la chance ou qui n'ont pas l'envie d'aller dans un Apple Store ou d'aller chez un APR, où des conseillers extrêmement bien formés vont leur expliquer en détail le pourquoi du comment de la chose. Donc, en cliquant en ligne, on clique sur un nom. Si on ne comprend pas le nom, on ne clique pas, hein. Donc, moi, je pense qu'Apple ne prendra pas de risque.
Ouais. Mais Ellie, pardon, mais est-ce que la semaine dernière, tu n'as pas dit le contraire ? J'ai eu le sentiment que tu étais favorable à l'Ultra il y a quelques jours.
Non, j'ai dit que tout était possible, mais que je n'y croyais pas vraiment. Donc, que pour moi, le Max a encore au moins une génération à vivre. Mais j'ai dit une ou deux fois, puisqu'on en a parlé longuement, que rien n'est impossible quand on parle d'Apple. Ils sont capables de nous faire une surprise. Donc, ouais. Mais moi, je ne le ferai pas, en tout cas.
Bon, en tout cas, Gilles et toi, vous êtes sur deux logiques très différentes. François, c'est quoi ton sentiment par rapport à ce Pro Max ? Est-ce qu'il va rester ? Est-ce qu'il va devenir Ultra ? Est-ce que les deux vont coexister ?
Moi, je trouve qu'en fait, ce serait complètement pertinent de renommer cet iPhone Pro Max iPhone Ultra. Parce qu'on voit que cette année, il risque d'y avoir beaucoup de différences entre le Pro classique et ce qui était le Pro Max. Et en fait, ce serait peut-être un moyen d'éviter de perdre les gens, justement, et de se dire que finalement, la différence entre le Pro et le Pro Max, bah, c'est juste la taille. En l'occurrence, ça ne va pas être ça du tout. Et ça peut aussi permettre à Apple de légitimer une augmentation de tarifs, parce que voilà, on va l'évoquer tout à l'heure, mais on parle d'une grosse augmentation, surtout pour le Pro Max, ça permet de légitimer cette augmentation. Donc moi, une gamme scindée iPhone 15, iPhone 15 Plus, c'est la même chose, il y a juste la taille d'écran qui est différente. iPhone 15 Pro qui va être l'iPhone de ceux qui veulent pas un gros téléphone, mais qui veulent quand même avoir les trois objectifs, quelques petites spécificités. Et l'iPhone 15 Ultra qui, lui, sera vraiment, entre guillemets, la Rolls, à l'image de ce que j'ai au poignet, hein, l'Apple Watch Ultra. C'est ça, en fait, elle est complètement différente des Apple Watch classiques. Ellie fait non de la tête, mais c'est mon analyse.
Ouais, tu as le droit.
Vas-y, Ellie, dis-nous.
Voilà, en fait, il n'y aura pas une aussi grande différence parce que oui, l'objectif périscopique, c'est la différence. Mais au niveau du design, ça sera le même et ça serait d'ailleurs totalement incompréhensible puisque l'iPhone 16 dont on parle déjà, le Pro aura aussi l'objectif périscopique. Alors le Pro ne sera plus ultra et donc il y aura un ultra. Donc on ne peut pas faire des trucs à très court terme comme ça, parce que l'an prochain, du coup, ils vont se contredire par rapport à l'autre. Donc, et c'est la seule différence. Hein. On parle de peut-être une taille mémoire supérieure, ok, mais ce n'est pas comme l'Apple Watch qui est, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, qui a un design complètement différent. Entre le Pro et le Pro Max, on a les coques, on a vu des rendus, etc. La seule différence, c'est l'objectif périscopique, qu'un utilisateur, quand il le regarde et qu'il ne l'utilise pas, ne voit pas. Hein. Pour lui, il peut le tourner. C'est comme un Pro, mais plus grand. Il n'a pas un processeur différent. Il n'a pas un USB 4 différent. C'est le même produit en plus grand avec un objectif. Est-ce que ça justifie ? Oui, aujourd'hui. Et l'an prochain, ce sera toute la gamme Pro. Donc, est-ce que ça justifie le changement de nom uniquement à cause de cet objectif ? Moi, personnellement, j'ai mis des réserves. Donc, si c'était un changement radical, comme semblait dire François, alors que peut-être François a des infos qu'on n'a pas nous, hein, sur les différences. Mais si c'est juste l'objectif photo, à mon avis, ça ne justifie pas. Mais bon.
Ouais.
Il y a certainement l'un de nous qui se trompe.
Ouais,
hein.
Ouais. On c'est sûr.
On apportera un chapeau pour le manger en public.
C'est sûr. François est toujours très bien informé, mais il fait semblant de ne pas savoir. Mais en fait, il sait beaucoup plus de choses que ce qu'il nous dit, n'est-ce pas, François ? Gilles, je reviens vers toi. Tu voulais reprendre la main.
Oui, on a déjà un précédent, en particulier sur l'Apple Watch, où l'Apple Watch 1, 2, 3, je ne sais plus combien, est devenu l'Apple Watch série 1, 2, 3, 4, comme c'est le nom maintenant de façon définitive. Pour moi, il y aura d'autres caractéristiques très haut de gamme ou marketées comme telles par Apple, avec le débit, du port USB-C, on en a parlé, éventuellement l'écran.
Il sera dans les deux. Ça, c'est sûr, maintenant.
On verra, mais rien ne dit que cet iPhone Ultra ne bénéficierait pas d'autres avancées avec au niveau de l'appareil photo. Apple a toujours procédé comme ça. Pour moi, ça irait dans le sens d'une clarification de la gamme. Voilà.
Ouais. Bon, en tout cas, la coexistence entre un Pro Max et un Ultra, c'est la théorie avancée par le leaker Majin Boo. Selon lui, l'iPhone 15 Pro Max ne sera plus le haut de gamme puisqu'il plafonnerait à 1 Tera de stockage et à 6 Go de RAM, ce qui serait déjà quand même 2 Go de plus que dans l'iPhone 14 Pro Max d'aujourd'hui. Et Apple proposerait en fait cette Ultra, donc avec entre autres caractéristiques 2 Tera de stockage et 8 Go de RAM, donc 2 Go de plus que le Pro Max. Lui croit donc à un cinquième modèle dans la gamme. Ça aboutirait à ça, Élie?
Oui, sauf que Mark Gurman, on en a parlé dans la quotidienne, l'a repris assez sèchement en lui disant « Non, non, moi je sais de quoi je parle, toi je te connais pas, qui tu es, et moi je te dis que ça sera pas comme ça. » Alors bon...
Ouais, on sent qu'on est entré dans la dernière ligne droite avant la keynote, hein, parce que les rumeurs se tendent un peu aussi entre ceux qui sont censés avoir des infos. Alors, on commence aussi à en savoir un peu plus, Élie, sur le périscope de cet iPhone. Alors, pour moi, c'est pas très clair. Le périscope, ce serait uniquement sur le modèle le plus haut de gamme, on va l'appeler comme ça, pas sur le Pro tout court.
Non. À notre grand désespoir, on va dire, pour cette année, parce qu'Apple a prévu de le faire pour le 16, on le sait déjà, même si c'est une rumeur, hein. Mais ça veut dire, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis cette année, alors qu'à un moment donné, on disait que les modèles Pro auraient cet objectif? C'est parce qu'a priori, c'est extrêmement difficile à fabriquer, et donc les quantités seront très réduite et risque d'être réduite pendant toute l'année, puisque en fait les fabricants n'arriveront pas à produire, et même à moyen terme. Donc plutôt que d'avoir toute la gamme Pro indisponible à cause de ça, Apple a dit, dans leur tête, hein, ils l'ont pas dit vraiment puisqu'ils n'ont pas annoncé le produit, le modèle très haut de gamme aura l'objectif, et l'an prochain on l'étendra au deuxième modèle Pro. Et peut-être que dans 2 ans, tous les modèles d'iPhone auront cet objectif périscopique. Mmh. En fait, le principe, c'est pas comme on pouvait l'imaginer ou comme on voit dans un appareil photo où vous voyez l'objectif qui bouge, qui agrandit, ou comme dans un sous-marin où le périscope monte. Là, en fait, c'est une lentille interne. En fait, il y a un effet de prisme à 90 degrés, et sur ces 90 degrés, il y a un certain nombre d'objectifs qui, eux, peuvent bouger légèrement. Et c'est en bougeant les objectifs qu'on obtient cet effet de périscope. Il n'y a rien qui va surgir derrière l'iPhone, oui. Hein, je vous rassure. Hein.
Alors, ce qui est marrant, c'est que dans l'article de CNET, notamment sur ce périscope qui va arriver dans une partie de la gamme iPhone, eux font pas la différence entre les deux modèles Pro. Hein. Ils disent qu'il arrive sur l'iPhone 15 Pro.
Alors, si c'était ça, ça serait une énorme surprise, hein, vraiment.
Ouais.
Ce serait chouette.
Qui justifierait encore moins qu'il y ait un modèle Ultra, du coup.
Ah bah du coup, là, oui.
Mais Gilles, ça serait Ça serait une très grosse surprise parce que, on l'a évoqué la semaine dernière, la gamme Pro était celle qui s'est le mieux vendue cette année par rapport à la gamme grand public. Donc, ça suppose d'autant plus de composants difficiles à fabriquer qu'il faut récupérer et pouvoir mettre sur le marché. Mais c'est un peu un fusil à tirer dans les coins, cette histoire. C'est, je trouve ça vraiment futé. Au lieu d'avoir, comme sur un appareil photo réflexe, qui sont maintenant d'anciennes générations, la lumière qui passe de l'objectif vers l'œil à travers un miroir et tout un tas de rebondissements à travers le prisme de visée, là, c'est l'objectif carrément qui est coudé.
C'est ça. Ouais.
Bon, en même temps, on en fait tout un plat, mais le périscope sur Android, c'est devenu banal. Hein.
Ah oui, oui. Ça fait un moment que ça existe.
Si Apple veut nous vendre... Si Apple veut nous vendre un iPhone avec périscope 2000 euros parce qu'il y a un périscope, faut qu'il se calme un peu aussi. Hein.
Bon, il risque de le baisser et de plonger comme un sous-marin.
Alors, parmi les rumeurs qui ont émergé ces derniers jours, on a aussi celle-là alors, qui concernerait un futur modèle d'iPhone Ultra, justement. Il aurait comme caractéristique, on va dire, particulière de pouvoir filmer et prendre des photos en 3D immersif comme le Vision Pro en appuyant sur le fameux bouton qui est dédié à cette prise de vue. On en parlait dans la quotidienne, Ellie. Tu trouves ça assez logique que ce soit, en tout cas, dans les tuyaux, peut-être pas pour la gamme 15, mais peut-être pour la gamme 16.
Oui. Parce qu'en fait, ce qu'on disait, et j'y crois vraiment, c'est qu'il va falloir du contenu au Vision Pro. Et quoi de mieux, et qui de mieux que les nombreux utilisateurs d'iPhone pour produire des vidéos immersives qui vont publier sur les différentes plateformes qui sont prévues pour, et que les rares et privilégiés utilisateurs de Vision Pro pourront se délecter à télécharger et à nous faire envie. Ils posteront des choses en disant oh, c'était incroyable et tout, et nous on sera ah ouais, bah ouais, bien sûr.
D'autant que c'est réservé à la gamme Pro, que les pros de l'image l'ont pris à bras le corps et font de plus en plus de contenu avec, et du coup c'est pas de la confiture donnée aux cochons, des perles aux pourceaux, comme on disait en latin. Donc il y a vraiment du sens. Je profite pour mettre une pièce. Il est possible que Apple justifie le prix de ce nouveau objectif en disant que c'est pas une nouvelle optique, mais de l'optronique, ce qui justifierait le prix en soi.
En tout cas, parmi les rumeurs qui tournent autour de cet iPhone Pro Max qui attire vraiment toutes les convoitises, hein, on sent que c'est le modèle sur lequel, comme tu le disais aussi il y a quelques jours dans la quotidienne, François, c'est le modèle qui peut encore nous réserver des surprises, on dirait. La batterie, alors on parlait d'une batterie qui aurait pu être nettement plus puissante, hein. On a vu passer le chiffre de 4852 mAh, sachant qu'aujourd'hui elle est de 4323, et l'estimation a été révisée à la baisse. On gagnerait à peine 100 mAh en passant de 4323 à 4422, mais d'abord, il y a le processeur gravé en 3 nanomètres qui va nous faire gagner pas mal d'autonomie. Et puis, il y a cette fameuse techno, si elle se confirme, de Vienneta, n'est-ce pas, Gilles ? De batterie oui. En couche.
Les repliés qui permettent d'augmenter la surface, en fait, ouais. D'unité active et utile.
Ouais. Et aussi d'activer ou de désactiver... une couche parmi les autres, donc en cas de défaillance, ouais. Ça permet de continuer à utiliser la batterie. Ça a l'air effectivement assez prometteur.
On appelle ça la vicariance, de façon biologique, pour les êtres vivants.
Comment tu l'écris ? C'est pour le Scrabble.
C'est V-I-C-A-R-I-A-N-C-E.
La vicariance, très bien. D'accord.
Vicariance, j'ai l'impression de revenir en première année.
Merci Gilles.
Alors, un petit morceau de biscuit caramel du coup, pardon.
Alors ça c'est l'os en fait. On avait vu ça pour le cerveau. Mais c'est une fin de la parenthèse.
Alors dans le sommaire, je disais qu'il y avait des rumeurs contradictoires. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de celle-là, mais on a deux analystes qui disent le contraire l'un de l'autre. D'un côté Ming-Chi Kuo, de l'autre Luke Lin. Le premier annonçait il y a quelques jours qu'Apple avait révisé à la hausse ses prévisions de vente d'iPhone au dernier trimestre. Plus 10 millions, passant de 70 à 80 millions en 3 mois. Au contraire, Luke Lin estime qu'Apple a revu à la baisse ses commandes d'iPhone 15, 10 millions de moins. Dans un premier temps, selon lui, Apple espérait en vendre jusqu'à 100 millions lors de ce dernier trimestre. Quelle est la vraie tendance, à votre avis ? Demande à la hausse ou demande à la baisse ?
C'est difficile à savoir en ce moment. Alors, les deux analystes, Ming-Chi Kuo, on le connaît depuis très très longtemps, mais dernièrement, il est moins fiable qu'avant. Donc, il a dit un peu des choses vraies et des choses pas vraies du tout. Ouais. Et Luke Lin, moi, je ne le connais pas, donc je ne peux pas trop juger. Par contre, j'ai entendu que effectivement, c'est tout à fait officieux, mais ça se dit dans les réseaux, dans nos grossistes, etc., qu'effectivement, Apple pourrait livrer moins d'iPhone que ce qu'il pensait. Alors, est-ce que ça viendrait corroborer ça ? On va rajouter un soupçon de rumeur à la rumeur. Moi, je pense que l'iPhone 15 va se vendre. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché. Mais le 14, surtout le Pro, pendant les premiers mois, s'est vendu très au-delà des prévisions d'Apple. Alors que, franchement, le 14 par rapport au 13, il n'était pas révolutionnaire. Hein. Nous, on était très étonnés de l'importance de la demande. On était les premiers surpris. Alors, on l'a aimé, moi je l'utilise et je suis très content. Mais entre le 13 et le 14, j'ai eu la chance d'avoir les deux pendant quelques jours entre les mains. Ce n'est pas une différence énormissime, à part les photos en RAW à 48 mégas la photo, mais tout le monde n'en fait pas.
Et puis Dynamic Island, quand même.
Oui, mais ça, c'est du logiciel. Apple, c'était juste un gimmick pour pouvoir vendre le truc, parce qu'ils auraient pu le sortir. Et d'ailleurs, cette année, ils vont le sortir sur toute la gamme.
Hein, ça a marché.
Hein. Les 15 non pro. Bien sûr, c'est ce qui nous a donné. C'est pour ça qu'ils sont tellement forts en marketing. Mais cette année, il y a vraiment un changement. Il y a le Titan, il y a les bords un peu arrondis, d'après ce qu'on nous dit. Il y a le M3, premier processeur au monde en 3 nanomètres, avec les performances, avec l'économie, etc. Donc, normalement, les gens devraient se jeter comme des malades sur la nouvelle gamme, sauf si le prix passe un seuil psychologique où les gens vont dire, un peu comme le Vision Pro, oh, il nous fait rêver, malheureusement, on ne peut pas l'acheter. Donc...
Bon. Alors justement, les rumeurs sur l'augmentation des prix, elles se suivent et elles se ressemblent. Hein. Les modèles Pro devraient coûter plus cher, nettement plus cher que la gamme actuelle. En revanche, les deux premiers modèles devraient probablement rester au même prix. Ce qui va créer un fossé entre, les deux parties de la gamme.
Alors oui et non, parce que les deux premiers vont probablement avoir une entrée de gamme en 128 gigas qui justifiera le prix. Et ce qui va faire l'écart de prix, c'est que les premiers modèles en pro vont être en 256 gigas. Or, le 256 gigas aujourd'hui est quand même plus cher que le 128. Et si on rajoute ce que disent les analystes, à peu près 100 $, ce qui fait du au moins 120 €, mais c'est plutôt proche de 140 à 150 en France sur les modèles pro. Et qu'on les monte à 256 gigas, ça flirte, comme on disait, avec les 1 500 €, puisque aujourd'hui, l'entrée de gamme est à 1 349 en 128.
C'est ça. C'est
en 128. Déjà, le 256 n'est pas loin, j'ai plus le prix en tête, mais vous allez le trouver sur Internet, je pense, très rapidement. François, qui est totalement multitâche, va nous dire ça. Donc, si on augmente celui-là, s'il dépasse la barre psychologique des 1 500 €, bon, et ça sera l'entrée de gamme, hein, c'est-à-dire que les modèles après vont monter et flirter ou dépasser les 2 000. Hein. Donc, ce qui pour un téléphone commence à être un peu...
1459.
Bah, tu vois, s'il augmente de 150, boum, on est au-delà. Hein.
Je ne voudrais pas qu'on se focalise sur la question du prix. S'il y a une correction à la baisse de la part d'Apple, je pense que c'est par rapport à la surprise des bonnes ventes de l'iPhone 14 par rapport à ce qui était attendu, dans la mesure où il restait sur les bras un stock de clients qui n'était pas censé faire le pas du 12 vers le 14. Le 12 qui s'était particulièrement bien vendu. Et donc, s'ils ont vendu plus de 14 que prévu, ça fera d'autant moins de 15 pour de gens prêts à acheter du 15, puisqu'ils auront déjà renouveler leur téléphone, et dans la mesure où également les cycles de renouvellement ont tendance à s'allonger. On n'est plus tous les 2 ans, on est sur les 3 ans, éventuellement 4 ans, voire 5 ans, nous dirait Fabrice. Ouais. D'autre part, il y a cette délimitation, cette démarcation assez fine entre le 14 et le 14 Pro qui fait que même si le gap est assez en termes de prix est assez important, mais ils ont vendu beaucoup plus de Pro qu'ils ne le pensaient, tant mieux pour eux, mais ça s'est fait au détriment du 14 grand public. Je les vois bien séparer davantage encore cette gamme grand public et cette gamme Pro pour que à la manière du Mac, le Pro soit vraiment destiné aux gens qui veulent se faire plaisir, qui savent pas quoi faire de leur argent ou qui en ont vraiment l'utilité et justifiant cela l'appellation de pro ou d'ultra et redéployer le grand public vers le 15 normal, quitte à rajouter des options éventuellement.
François ou Élie en premier?
François.
Je trouve qu'on passe un peu trop de temps sur la question du prix. Dans le sens où, finalement, est-ce que ça va vraiment déterminer? Je pense qu'il y a une grosse partie des gens, comme on l'a dit la semaine dernière, les premiers à l'acheter, ça va être des gens qui vont sans doute pas regarder le tarif. Maintenant, je rejoins l'analyse de ce que disait Élie tout à l'heure. Je pense que psychologiquement, il faut éviter de passer les 1 500 € pour le nouvel iPhone 15 Pro. À mon avis, on va être sur du 1499 ou un truc comme ça. Juste histoire de dire, voilà, ça permettra de pouvoir filmer en 4K, ProRes, machin, bidule truc, le haut de gamme qu'on pouvait pas faire jusqu'à maintenant sur le 128, et puis ce sera très bien. Je serais surpris, honnêtement, que le tarif du Pro d'entrée de gamme soit supérieur à 1 500 €. Et je trouve que déjà, 1500 balles, ça commence à faire pas mal pour un iPhone, quoi.
C'est énorme, ouais. Élie, tu voulais parler du prix une dernière fois.
Oui, une dernière fois. C'est juste, je peux croire, et connaissant Apple, j'ai peur de croire à l'analyse de Gilles, à un écart entre la gamme normale, entre guillemets, qui est quand même différente, parce que rappelez-vous qu'il y a toujours le processeur N-1, hein, donc et peut-être pas exactement le même design, et pas le même matériau, donc il y a quand même des différences. Mais jusqu'à maintenant, Apple a fait en sorte, en mettant justement la gamme normale à un certain prix, ce qui fait que les modèles normaux, donc les 14 et 14 Plus, ne se sont pas vendus les premiers mois, c'est tout simplement parce qu'Apple fait un différentiel qui donne quand même envie, puisqu'on a déjà franchi la gamme des 1 000 €, aux gens qui disent, soit ils disent, de toute façon, si au-delà de 1 000 €, je ne le prends pas, je prends autre chose, soit ils disent, tant qu'à faire, je vais prendre le Pro, parce qu'il est plus cher, mais pas tellement plus cher par rapport à justement aux différences. Le processeur, enfin, tout ce qu'on a déjà dit sur le 15 Pro de cette année. S'ils le mettent à un prix trop prohibitif, les gens vont acheter plus d'entrée de gamme. OK, mais Apple, ce qu'ils veulent, c'est que les gens achètent du Pro, hein, clairement. C'est là-dessus. Apple gagne de l'argent sur tous les modèles, mais Apple a tout intérêt à ce que les gens achètent du Pro, comme tous les ans.
Ouais, ouais. Alors, il y a un point dont on n'a pas encore parlé, c'est quand même un des points essentiels de cette nouvelle gamme, le passage du Lightning à l'USB-C. On est tous d'accord pour dire qu'Apple y va à marche forcée, hein, forcée notamment par l'Union européenne. Mais Apple va sans doute présenter le changement comme un changement positif et une décision proactive, même une victoire pour les clients, comme le présuppose Mark Gurman. François, tu joues du pipeau.
Non, ça s'appelle du marketing.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est exactement ça. Mais il y a un moment, faut pas nous prendre pour plus bête qu'on ne l'est. Certes, on est des gentils moutons et on va acheter le nouvel iPhone à 1500 balles. Mais quand même, l'USB-C, si Apple avait pu s'en affranchir, ne pas y passer, elle y serait pas passée. Mais là, c'est à pied à cheval. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils le fassent. Donc, ils auraient pu faire encore plus leur bâtard, mais je trouve que c'est ça, et attendre l'année prochaine, parce qu'ils avaient encore une année de marge, hein. Ils auraient pu tout à fait se dire, on attend pour l'année prochaine. Maintenant, voilà, ils vont effectivement nous sortir un joli laïus en disant, regardez, c'est super, tout passe à l'USB-C, c'est magique, c'est magnifique, mais s'ils... Et puis, ils vont bien nous sortir un petit truc de vérif sur le câble, il y aura bien un petit truc pour le transfert de données, ils vont nous sortir un petit truc propriétaire, parce que le MFI, c'est quand même un petit business qui rapporte pas mal à Apple. Mais voilà, c'est bien que ça passe à l'USB-C, même si, comme je l'ai dit, je sais plus si c'était l'émission il y a 15 jours ou la semaine dernière, combien de fois est-ce qu'on branche vraiment notre téléphone à un ordinateur en USB-C, etc. Moi, c'est vrai qu'au pied de mon lit, c'est du MagSafe, hein, il est aimanté, c'est tout, quoi. Ouais. Et la plupart du temps, c'est ça, en voiture, c'est pareil, etc., etc.
La charge sera plus rapide, hein.
On rappelle que MFI, c'est Made for iPhone, donc c'est le petit logo qu'Apple vend aux fabricants d'accessoires, n'est-ce pas, Ellie ?
Absolument. Oui, oui. Et les gens, et d'ailleurs, Apple contrôle dans nos magasins, parce qu'on est contrôlé, que tout ce qu'on affiche dans nos présentoirs, hors Apple, bien sûr, porte le logo MFI. On n'a pas du tout le droit de mettre dans un APR un produit qui ne soit pas MFI. Hein, donc,
bien
là.
Sûr.
Comme AliExpress, hein, pareil.
T'as raison.
J'ai une
Gilles,
question
je sens que t'as besoin, théorique. Envie de parler. Ouais.
Non, j'ai une question théorique que quelqu'un de la supply chain management pourrait nous éclaircir en commentaire sur X, sur Twitter ou n'importe. Est-ce que l'argent que Apple dégage avec le business du MFI n'est pas, somme toute, inférieur aux économies d'échelle qu'ils vont réaliser sur, je crois que ça va peut-être 80 millions d'iPhone au premier trimestre avec de l'USB-C partout. Sachant qu'ils en mettent déjà dans la gamme iPad et dans l'ensemble de leur Mac. Donc, c'est une question qui est purement théorique. S'ils le font avec un an d'avance, je ne suis pas sûr qu'ils soient perdants.
Oui, et puis il y a une cohérence, effectivement. Ils savent faire de l'USB-C, hein, donc ils ont traîné à cause du MFI, mais à un moment donné, il faut passer. Et puis, regardez la réaction de Samsung qui vient de lancer des publicités où ils se moquent complètement du fait qu'Apple passe à l'USB-C en disant « Mais attendez, vous
non,
présentez ça comme une nouveauté, nous on le fait depuis des
c'est
années. »
Google. C'est Google.
C'est Google. Mais Samsung aussi a fait un truc. Mais moi, j'avais vu Samsung, pas Google, mais peut-être je me trompe.
Pas non, l'USB-C, je crois pas. En tout cas, les pubs d'aujourd'hui, c'est la pub d'aujourd'hui, c'est Google, sauf erreur.
Enfin, le fait qu'il y ait déjà de la pub là-dessus, que les concurrents communiquent alors qu'il n'a même pas été présenté, c'est assez cocasse. D'accord.
Mais je pense que c'est jamais bon de faire une pub en s'appuyant sur les pseudo-erreurs des autres. Ouais,
non,
et puis
surtout, Apple va réagir parce que les autres, ils font de l'USB-C, certes, mais ils ne font pas du Thunderbolt 4 dans des téléphones. Hein. Donc, les vitesses de transfert dont Apple va nous parler et nous reparler dans la gamme Pro, ça n'aura rien à voir avec ce que font les autres. Hein. Donc, du coup, ils vont, eux, se moquer de ceux qui se moquent. Et donc, voilà. Bon, ils vont pas faire une pub pour ça, mais ils vont bien expliquer leur vitesse de transfert et tout ce qu'on peut faire en connectique sur les iPhones et les iPads, et les Mac, bien sûr, grâce à leur technologie USB 4 et Thunderbolt qui passe par l'USB-C, qui n'est à la limite qu'un connecteur qui fait passer de la technologie Apple.
C'est ça. Alors, revenons à cette invitation pour l'Apple Event de mardi, à ce visuel sur fond noir que vous avez forcément vu désormais. Ce logo Apple en sable dispersé par le vent, un logo creusé. Alors, il y a 5 références, enfin, si on fait un peu le tour de tous ceux qui ont essayé d'y trouver des significations, il y aurait 5 références dans ce visuel. Est-ce que vous en avez ?
Bon, on en a
trouvé. Oui, parce qu'on a le conducteur juste en face de nous.
Moi, je triche pas.
Ah, mais je fais appel à votre honnêteté.
intellectuelle. On l'a évoqué, il y a l'histoire de la couleur. Je pense que clairement, on voit les nouvelles couleurs.
Ouais.
Donc,
alors, il y en a 4 hein, si on vraiment cherche.
Ouais, ah bon ? Faut chercher quand même. Parce que
moi, j'en ai trouvé 2. Hein. Ouais, c'est ça.
C'est subtil, faut zoomer, faut. C'est des reflets. C'est... Donc il y a du gris, il y a du noir, il y a du bleu, il y a du gold, a priori. Il y a une explication intéressante sur le sable. Le sable, c'est aussi quelque part de la poudre. Ouais. Il se trouve que les coques en titane sont faites à partir de poudre de titane, ce que je ne savais pas. Ah. Donc ça peut être une allusion au titane aussi, le sable.
L'aluminium aussi, me semble. À moins que ça soit des lingots qui sont usinés, mais à la base, c'est de la poudre.
Non, mais je ne dis pas que ce n'est pas le cas de l'aluminium, mais c'est aussi le cas du titane, donc ça peut être une référence. C'est évidemment aussi une référence à l'Apple Watch, parce que le sable, le sablier, c'est le temps qui passe. Hein, on est d'accord. Wanderlust, qui veut dire donc envie d'émerveillement, ça pourrait faire référence à. Au zoom optique de l'objectif périscopique du Pro Max, ça te fait marrer, François.
Je me dis, il y a vraiment de quoi fumer des petits joints en imaginant ce qui peut être dit. C'est
ça.
Ah bah. Il faut remplir les émissions et tous les podcasteurs d'ici le 12. Hein.
Je partage avec vous. On a promis toutes les infos, toutes les rumeurs. Donc, je partage avec vous. Donc, voilà, les couleurs, le titane, le périscope, l'Apple Watch et le dernier sens. Sous l'effet de substances non autorisées parfois, ça peut être une référence aux AirPods. Si on regarde les effets de vagues creusés dans le sable, ça peut être une référence aux ondes sonores. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ont vu certains après avoir abusé du LSD.
Ouais, bah, les AirPods, à mon avis, Apple ne va pas trop en parler en attendant d'avoir la nouvelle génération. Ils vont parler du chargeur USB-C, ça,
voilà.
Y a pas de doute.
Donc,
y a pas de doute. Mais ils vont pas nous.
Il y aura pas de nouveaux AirPods. On va y revenir tout à l'heure, mais sans doute un nouveau boîtier de charge.
Oui. Au moins pour les pros. Maintenant, rien ne dit qu'ils vont pas aussi mettre de l'USB-C dans les AirPods 3. Hein. C'est pas impossible.
Mais dès la semaine prochaine, ils vendraient des versions USB-C.
De tout, non. On a entendu parler des pros d'abord. Je pense qu'ils le font avec. Après, quand les AirPods 3, qui pourraient devenir des 4, vont passer à l'USB-C, ça sera un communiqué de presse. Ça ne va pas sortir dans une keynote en disant « Regardez les boîtiers de nos AirPods qui ne sont toujours pas lossless, sont maintenant USB-C. » C'est du temps d'antenne. Hein. Rappelez-vous qu'Apple ne peut pas envoyer trop de messages dans une keynote parce que sinon, le message se perd et il y a des commentateurs qui vont parler des AirPods parce que c'est la musique qui leur plaît au lieu de parler de l'essentiel. Donc Apple veut passer un message simple que tout le monde va comprendre et que tout le monde va répercuter.
Justement, message simple, tous les AirPods, en dehors des AirPods Max, mais tout le monde s'en fout, passent à l'USB-C, ce serait la classe quand même. Une belle slide. Regardez comme on est gentil, on a mis de l'USB-C partout. Ouais.
Ce serait logique.
Bien sûr.
Apple, ce serait logique. Alors, la keynote de mardi prochain, je vous le rappelle, à suivre avec nous sur iWeek.news, entre autres, et on y reviendra à la fin de la semaine dès 18h30. Est-ce qu'elle va marquer la fin du partenariat entre Apple et Hermès autour des bracelets en cuir véritables pour Apple Watch ? Selon Mark Gurman, les bracelets en cuir pour la montre connectée pourraient eux aussi disparaître à partir de la semaine prochaine. On avait déjà parlé de la disparition sans doute des études et des iPhones, remplacées par du cuir vegan, hein, c'est l'appellation à la mode. On parle aussi d'un nouveau matériau qui s'appelle le Fine Woven. Et ce qui a mis la puce à l'oreille de Mark Gurman, c'est qu'en interne, Apple offrirait 90% de remise à ses salariés sur l'achat d'un bracelet Hermès pour Apple Watch ou d'un combo Apple Watch-bracelet. Et c'est ce qui était déjà arrivé quand le premier HomePod avait été retiré de la vente.
Si vous avez des copains chez Apple et que vous les aimez Hermès, hein, c'est le moment de passer un coup de fil. Hein.
C'est ça. Alors c'est peut-être terminé. Hein. Ça a dû être la razzia, je pense. Hein. Parce que c'est des produits chers, mais avec 90% de remise, ça devient intéressant.
Surtout pour les revendre sur le bon coin.
Oui, c'est ça. C'est ça. Le bon coin américain. Bon, dernière info concernant les iPhones. Contrairement à l'an dernier, l'une des différences, c'est que iOS 17 et iPadOS 17 devraient sortir en même temps. C'est-à-dire, Ellie, si tout va bien, autour du 22 septembre.
Un peu avant. Généralement sortent quelques jours avant. Donc, ouais. On va dire
le lundi, mardi, généralement, c'est la sortie.
Exactement.
En même temps, il n'y a pas grande nouveauté du côté d'iPadOS, donc c'est pas très, très étonnant.
C'est ça. Bon, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette keynote dans donc 7 jours, puisqu'on est mardi 5 septembre. Je vous rappelle l'existence du podcast Compagnon de la semaine Apple pour vous tenir au courant jusque cette keynote donc dans une semaine. Podcast sous la même bannière iWeek, c'est la quotidienne iWeek. Abonnez-vous en un clic sur votre plateforme préférée et vous recevrez un épisode par jour toute la saison du lundi au vendredi. 5 à 10 minutes d'infos, de hot news, comme on dit sur l'écosystème Apple. Dans un instant, tout ce qui ne sera pas annoncé lors de la keynote de la semaine prochaine, et oui, on va procéder par élimination. Désolé, mais ce sera très probablement pour plus tard. Une keynote donc le 12 septembre, keynote iPhone. Tu l'as dit, Ellie, Apple ne veut pas créer d'interférence, c'est trop important. Et donc, on sait qu'un certain nombre de produits sont dans les tuyaux, mais leur annonce sera pour plus tard. Alors, soit pour cette raison, soit tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts, soit parce que le calendrier n'est pas du tout calé sur ce mois de septembre. On va commencer peut-être par l'attente la plus importante, c'est les Mac M3, donc les premiers qui bénéficieront de ces processeurs gravés en 3 nanomètres comme sur la gamme iPhone 15. Au mieux, c'est pour dans un mois, c'est ça ?
La keynote. La dispo, ça serait probablement après, mais ça serait fin octobre, si la keynote est en octobre, voire début novembre. Mais en tout cas, bien entendu, si possible, disponible pour la saison des achats de Noël, qui commence évidemment par le Black Friday au plus tard. Parce que si on le sort trop tôt, les gens le voient, mais ils disent « Ouais, mais on va attendre le Black Friday, parce que peut-être il y a des gens qui vont faire des prix, y compris sur les nouveaux modèles. » Ce qui, chez nous, n'arrive jamais, mais chez les discounters professionnels, arrive y compris sur les derniers modèles. Donc, il y aura une attente. Donc, Apple a du temps. Et puis, ce n'est pas que les modèles ne sont pas prêts. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il y aura assez de processeurs M3 ? Ça risque de conditionner le ou les modèles. S'il n'y en a pas beaucoup, parce que les iPhones se vendent très bien, ils sortiront un modèle qui risque peut-être d'être l'iMac, hein, qu'on attend depuis si longtemps.
Et oui.
S'il y a pas mal de processeurs, il pourrait y avoir l'iMac et les MacBook Air 13 pouces. Donc, par exemple, c'est une hypothèse. Hein. Et après, il faut quand même quelques mois. Contrairement à ce que j'ai lu aussi, parce que justement, on est dans une période où les gens se contredisent. La gamme Pro, MacBook Pro, à mon avis, c'est printemps, voire WWDC, parce qu'on ne passe pas d'un M3 à un M3 Pro comme ça. Hein. Il faut les assembler, il faut les produire. Donc, moi, je ne vois pas ça tout de suite. Mais printemps, fin de printemps, pourquoi pas.
Ouais. En revanche, l'iMac M3, ça pourrait arriver plus tôt. Apparemment, il reprend la corde.
Oui. Justement, parce que c'est un modèle.
Ça dépend quel iMac, le 24 pouces. Éventuellement, il y a un brevet qui vient de passer, un brevet déposé par Apple, sur un design d'iMac qui serait dans l'écran, ferait la totalité de la surface présentée, un peu à la manière d'un d'un écran studio ou cinéma. Du coup, ça décadrait d'autant la disponibilité, la présentation de l'iMac à l'année prochaine, comme c'était de l'iMac grand écran, je veux dire, comme c'était évoqué à de nombreuses reprises.
Ouais, enfin François, ils ont eu le temps de le travailler cet iMac grand écran quand même. Ils ont déjà le petit, ils font le grand, c'est quand même pas. Il faut pas 3 ans pour faire ça quand même. Soyons sérieux.
C'est la réflexion, tu vois. On a acheté des salles informatiques avec sur 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Et au final, c'est le même modèle partout. Et je pense que c'est la première fois que ça se produit depuis que je travaille là-bas, c'est-à-dire depuis 17-18 ans, quoi. Généralement, il y avait toujours des écarts entre les années. Et puis là, l'iMac, il a quand même 2 bonnes années et demie, quoi. Donc, après, c'est pas le souci, hein. C'est une super bonne machine, elle marche très bien, quoi. Mais il y a un moment, ça prend du retard par rapport aux autres, quoi. Ouais. Après, l'iMac grand écran, on verra, mais j'y crois de moins en moins, mais après tout, on sait jamais.
Moi, j'y crois, mais je pense pas que ça sera un iMac M3 avec un écran plus grand. Je pense que s'ils arrivent à une taille de 30 ou 32 pouces, ça mériterait de s'appeler iMac Studio et du coup avoir un processeur pro. Et du coup sortir effectivement vers l'été, on va dire, des choses comme ça. Parce que l'iMac 24 pouces correspond aujourd'hui à vraiment à la plupart des besoins, sauf des professionnels. Et les professionnels, eux, ils veulent un grand écran, mais ils veulent aussi de la puissance et ils veulent du stockage et ils veulent. Et donc ça s'appelle un studio. Donc Apple pourrait avoir une gamme studio, pourquoi pas, hein. Il y aurait une certaine logique.
Alors, on parle d'une keynote iPhone 15. Beaucoup de gens vont espérer un iPhone SE 4 la semaine prochaine. Ça n'arrivera pas. Pourquoi il n'y a pas un lancement de SE 4 en même temps que de la nouvelle gamme iPhone ?
Parce que l'iPhone SE, il n'est jamais présenté en même temps que la nouvelle gamme iPhone, tout bêtement. Généralement, ça arrive au printemps de l'année qui suit. Avec un redesign, pas de redesign justement, mais juste des nouveaux composants. Alors vraisemblablement, si nouvel iPhone SE il y aura un changement de design, parce que je ne pense pas qu'Apple va nous ressortir encore une fois le design de l'iPhone 7. iPhone 7 hein, sorti en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Donc je ne pense pas qu'ils vont utiliser le même design 10 ans après quand même. Ce serait assez surprenant. Moi, mon petit souhait, parce que c'est un iPhone qui plaît beaucoup, ce serait d'imaginer un iPhone SE 4 avec un design d'iPhone 14, 13 mini, enfin d'iPhone 12 et 13 mini, pardon, parce qu'il n'y a pas eu de 14 mini. Mais ça, j'ai un peu de mal à y croire, parce qu'on parle plutôt d'une taille un peu plus grande. Mais dans la rumeur, l'iPhone SE 4, c'est même pas sûr qu'on l'ait en 2024.
Tu es assez d'accord.
Tu parles de...
moins de 2 ans.
Ouais. Tu parles d'un iPhone mini, François. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le retour de l'iPhone mini avec la gamme 15 la semaine prochaine?
Parce que a pas beaucoup marché.
A pas beaucoup marché.
iPhone 15 Plus.
Bah oui.
À 14 Plus, a pas beaucoup marché non plus.
Ouais, mais dans ce cas-là, ils vont arrêter l'iPhone Plus. Enfin, il y aura quand même un 15 Plus.
Normalement.
Oui. Ouais, mais à mon avis, ils vont peut-être avoir l'intelligence de se dire finalement revenir à l'image de ce qu'on avait avec le modèle 11, c'est-à-dire 11, 11 Pro, 11 Pro Max, et puis au moins c'était clair, quoi. Je sais pas si en entrée de gamme, entre guillemets, il y a de la place pour deux modèles, je sais pas.
Ben, c'est ce que tu viens de dire, c'est tu as dit entrée de gamme, le problème de l'iPhone 14 Plus, c'est son prix. C'est la seule chose qui est un problème. L'écran est magnifique, la taille c'est celle que veulent les gens, mais le prix c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Donc comme Apple n'est pas vraiment sur un plan de réduire les prix, malheureusement...
La question qui sera intéressant de voir, c'est est-ce que parce que vraisemblablement l'iPhone 14 Plus va rester au catalogue avec un prix un peu plus bas, sans doute, c'est quand même d'habitude ce qu'on a, est-ce qu'il se vendra mieux avec un prix d'entrée plus bas?
Ça va être un bon test. Être un bon test, oui.
Alors, on parlait des AirPods Pro et d'un éventuel probable nouveau boîtier de charge en USB-C. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas les AirPods Pro 3 la semaine prochaine ?
Trop tôt.
Trop tôt. Malheureusement, encore une fois.
Trop tôt parce que ça fait un an, c'est ça ?
Oui.
Oui. Et parce que ouais. les Pro 3, je les vois mal sortir sans être lossless. Ce qui veut dire une évolution dans la façon dont ils communiquent avec l'iPhone. Donc, en Bluetooth, aujourd'hui, à partir du moment où ils font de la compression, il y a un nouveau standard qui permet de passer plus d'informations en Bluetooth. Mais dès que vous dites Bluetooth, donc les gens disent donc pas lossless, parce que même une très bonne compression, c'est de la compression quand même.
Ben oui.
Donc aujourd'hui, le lossless, c'est Wi-Fi. Alors, est-ce que vous voyez aujourd'hui des composants pour faire des AirPods Wi-Fi? Dans cette taille-là, je crois que pas encore.
Ouais.
Peut-être un jour, hein, mais pas encore.
Bon, Macworld aimerait beaucoup que les AirPods Max deuxième génération soient annoncés la semaine prochaine.
Ça, c'est pas impossible. Voilà, la semaine prochaine. En tout cas, avant la fin de l'année, oui.
Oui.
Trop de produits dans la keynote de septembre, non.
Ben oui, je sais.
Dans la keynote d'octobre.
Je sais, mais là, on liste tout ce qui n'arrivera pas la semaine prochaine, en fait. C'est une manière d'en reparler, évidemment. Donc, pas de AirPods au sens large, si ce n'est ce boîtier de charge, probablement. Puisqu'on parle de son et de musique, est-ce qu'une V2 des HomePod mini est dans les tuyaux?
Oui, mais pas tout de suite. D'après Gurman, hein, encore une fois.
Ouais.
Hein, il dit production 2024.
On passe aux iPads. Alors, il y a deux sujets. Il y a l'iPad mini 7.
Oui.
Et puis, il y a les nouveaux futurs iPad Pro OLED, dont on parle beaucoup.
Oui.
Non, pas la semaine prochaine, pas d'iPad.
Non. Les iPad Pro... alors, attention. Pro, non. Ça, c'est vraiment printemps 2024.
Ouais.
Parce que M3, parce que OLED. Est-ce qu'il peut y avoir la semaine prochaine ou en octobre, mais ça s'est déjà produit en septembre, hein, iPad 11e génération? Pas impossible. Hein. Ça prend 3 minutes hein, dans une keynote. Et ça se vend. Donc, les iPads d'entrée de gamme se vendent.
Surtout en septembre. Surtout en septembre.
Oui. Alors, l'iPad mini 7 a déjà été annoncé à ce moment-là. Il y a eu des annonces surprenantes dans une keynote de rentrée, comme des iPads comme ça. Pas l'iPad Air, mais un 7 et un 11e génération, ce n'est pas totalement impossible. De même qu'un Apple TV dont on avait parlé. Mais ça a déjà été annoncé en septembre, mais ça pourrait être annoncé un peu plus tard, parce qu'en plus, ce n'est pas hyper révolutionnaire, hein. Ni au niveau du Mini 7, ni au niveau du 11e génération, ni au niveau de l'Apple TV. On parle de mise à jour incrémentale, hein. Donc on parle de processeur, on ne parle pas de redesign, on ne parle pas encore de cet Apple TV qui ferait barre de son ou qui aurait une caméra. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Hein.
Ouais. Bon, il reste la V2, la deuxième génération de AirTags, éventuellement.
Oui, là, encore une fois, c'est un accessoire, donc...
Oui.
Oui, s'ils sont prêts, pourquoi pas? Apple peut nous sortir que grâce aux nouvelles puces de localisation, c'est encore plus précis, encore mieux, etc. Et que... Parce qu'en fait, dans un AirTag, il n'y a pas grand-chose, hein, donc...
Oui.
Donc, pourquoi pas? Ils ne vont pas changer le design, hein,
non.
Du tout. Hein.
Faire un trou, peut-être, non? Pour nous simplifier la vie, non?
Non, il y a des beaux porte-clés Hermès.
C'est ça.
Alors, zut.
Plus en cuir. Bon, et puis, alors, je pose la question à laquelle j'ai la réponse, mais et si Apple nous surprenait dès la semaine prochaine en lançant le Vision Pro? Ça fait rire, Ellie, c'est bien.
Ah, vraiment pas?
Non.
Ils ne sont pas prêts.
Bon, et si je pousse le bouchon encore plus loin, les Apple Glass, vous avez sans doute vu passer ce brevet sur lequel on voit un équivalent de couronne digitale sur des lunettes. Et c'est un brevet donc déposé par Apple. C'est peut-être la première petite confirmation que les lunettes type Apple Glass sont bien dans le viseur d'Apple. Mais ce sera après les masques type Vision Pro.
Alors attention, un brevet Apple, c'est toujours généralement 2 à 3 ans, plutôt 3. Hein.
Ouais,
donc
minimum.
Ça veut dire que si c'est des Apple Glass pour 2026, voire 2027, c'est un peu qu'ont dit les commentateurs éclairés comme Mark Gurman et d'autres. Quand ils ont redonné l'évolution, ils ont dit oui, alors les lunettes, oui, mais alors pas tout de suite. Donc plutôt dans 2-3 ans. Et donc d'abord, on aura la deuxième génération de Vision Pro. Peut-être la génération de Vision Pro numéro 3 et les glaces après. Hein, donc, c'est... Parce que le jour où ils sortent des lunettes et donc dans des gammes de prix qui seront entre 500 et 1000 euros, ils ne vendent plus de Vision Pro. Hein, donc,
ben oui, c'est sûr.
Bon, ça ne fera pas la même chose. Hein. On ne pourra pas faire de l'immersif sur des lunettes. Hein, ou alors, il faut qu'ils m'expliquent comment ils vont faire. Hein. Mais ça ne sera pas le même usage.
Ben, ça va tout dépendre du brevet. Si tu as un D devant l'intitulé du brevet, c'est du design. Et alors là, c'est de l'ordre de quelques jours.
Je pense pas qu'ils en soient là pour des lunettes. Hein.
Non.
Malheureusement, ce serait bien. Bon, j'ai une dernière question à vous poser sur tous les produits improbables mardi prochain qu'on a évoqués. S'il devait y avoir quand même une surprise sympa, laquelle ce serait pour vous? Allez, on fait un mini tour de table rapide. François?
Tu veux vraiment une nouveauté ou je peux donner un truc global, général
Bah quelque chose qui n'est pas attendu, mais qui arriverait quand même.
Pas d'augmentation de tarifs.
c'est une bonne idée.
Voilà.
Gilles. Oui, au moins
François me l'a enlevé de la bouche, mais je l'avais déjà évoqué il y a quelques semaines. Une baisse même de tarifs de l'ordre d'une centaine d'euros pour répercuter la réappréciation de l'euro par rapport au dollar. On a gagné la moitié de ce qu'on avait perdu l'année dernière.
D'accord.
C'est pas impossible dans ce contexte de baisse des prix qui est annoncée pour la gamme grand public. Hein.
Bon, j'ai compris, vous voulez pas répondre à ma question, donc je la repose. Alors, on n'a pas le droit de répondre des trucs bizarres. Il faut un nom de produit parmi ceux qu'on a cités. S'il y avait une surprise qu'on n'attend pas mardi prochain, ce serait quoi? François, je recommence. Je remets une pièce.
Moi, la surprise, ce serait un cinquième iPhone dans la gamme présentée la semaine prochaine.
Ok. Mmh. Pas mal. Gilles?
Parce que pas logique.
Honnêtement, j'ai rien à part les AirTag. Éventuellement, retravailler la version retravaillée avec Google de manière à empêcher le marquage à la culotte, sans mauvais jeu de mots, le marquage au flottant, on va dire.
Ouais. Ellie, allez, si tu devais choisir quand même une bonne surprise dans cette liste.
Bah moi, j'adorerais avoir un iPad mini et un Apple TV. Ça, c'est deux produits que j'achèterais en plus de l'iPhone. Du coup, ça ferait griller mon budget, mais bon. Je pense que, vu le retard du Vision Pro... J'ai un peu d'argent à dépenser d'ici là.
François, pour une dernière.
Et toi, Benji?
Ah non, c'est moi. Tu veux avoir ma réponse à moi?
Ah bah oui.
Écoute, je verrais bien les AirPods Max. Parce que eux, ils ont besoin.
Fout, mais oui, pourquoi pas.
Ils pourraient arriver en USB-C. Et why not?
Ouais, ne croyez pas que tout le monde s'en fout. Ils ont fait un lancement très difficile à cause du prix. Mais depuis qu'on les trouve à peu près discountés partout, sauf chez les gens qui n'ont pas la marge pour le faire, il y a une énorme demande et une disponibilité qui est totalement nulle parce que tout simplement, les grossistes qui nous approvisionnent, eux, n'y ont pas cru du tout. Donc, ils n'ont pas prépositionné et sur des prévisions à 6 mois, ce qui fait que quand on leur commande des Max actuels, hein, parce qu'on a vraiment une demande, ils nous disent oui, mais dans 6 mois. Sauf que dans 6 mois...
Je trouve qu'on ne voit plus les promos qu'on voyait à une époque sur Amazon Italie et compagnie, parce que régulièrement, on les voyait à 380, 390, 400. Moi, j'en avais commandé un pour tester, j'avais dû le payer 400 euros, je crois. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on voit beaucoup, beaucoup moins de promos de ce type-là sur les AirPods Max.
Parce qu'il n'y en a pas. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y en a pas.
Mais ouais. Allez, un petit rappel, la semaine Apple et la quotidienne iWeek, deux podcasts gratuits. Alors, on compte sur vous. Si vous appréciez notre travail, la page iWeek sur patreon.com/iWeek vous attend. pour vous remercier de votre soutien. Vous y trouverez chaque épisode en avant-première, en version audio et vidéo et sans pub, ainsi que les bonus hebdo exclusifs. Encore une fois, un grand merci à chacune et chacun d'entre vous, même si nous avons besoin que vous soyez encore plus nombreux pour développer iWeek et y consacrer davantage de temps pour vous proposer plus de contenu et plus régulièrement. À suivre, nos coups de cœur et nos cartons de la semaine. Coup de cœur, carton jaune, carton rouge, c'est la tournée en fin d'épisode. Ellie, rien
non,
pour toi cette
pas
semaine
cette semaine, je passe, j'avoue.
Tu sèches. Eh bien écoute, tu auras une semaine de plus alors pour réfléchir. François, quel est ton coup de cœur ou peut-être ton coup de gueule, je ne sais pas, en voyant l'intitulé de ton sujet?
C'est un petit coup de cœur. Je donne un coup de main là actuellement à la fac pour finir les installations. Et c'est vrai que j'ai toujours plaisir à cette période-là quand ça marche quand même très souvent. Ouais. Mais avoir les outils qui sont proposés par Apple pour la gestion de parc en entreprise. Alors nous, on utilise ce qu'on appelle un MDM, Mobile Device Management. En fait, l'idée, c'est que la gestion du parc est gérée, on va dire, pas à distance, mais presque. C'est-à-dire que tout peut se faire avec une interface, toutes les préférences. Il y a plein de trucs qu'on peut faire, verrouiller les écrans, désactiver le Wi-Fi, désactiver plein de trucs pour que les étudiants ne puissent pas faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que je suis toujours impressionné par la facilité d'utilisation. Quand on maîtrise l'outil, faut quand même le maîtriser. C'est pas toujours simple. Mais malgré tout, on peut faire plein de choses et c'est hyper agréable et hyper plaisant. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur. Apple, ça reste quand même simple à gérer.
Super, merci François. Gilles, coup de cœur ou carton?
Alors c'est un coup de cœur d'un produit qui s'appelle la Nick Collection et qui est sorti mercredi dernier en... Non François.
La Nick Collection. Ça s'écrit N-I-K. Hein.
N-I-K Collection, ce n'est pas un truc de Don Juan, je t'arrête non. Dessus. Qui est sorti en version 6.3 mercredi. Et c'est une suite de plugins de correction de créativité pour Photoshop, Adobe Lightroom et désormais Affinity Photo. Alors c'est une suite qui avait été rachetée par DxO Labs à Google en 2017, mais Google avait lui-même racheté la suite à Nick quand la société avait fait... avait baissé le rideau. Donc c'est une suite de différents plugins qui corrigent les effets de distorsion, qui vont faire du développement RAW, qui vont augmenter l'acuteur et la netteté. Et c'est une suite de plugins qui sont anciennes, que les photographes connaissent bien, qui a été racheté par DxO Labs, qui a été refondu de fond en comble. Il y a tout un tas de corrections, de distorsions. L'avantage, c'est que le prix est relativement abordable pour tout ce que ça fait quand on a investi déjà dans une suite. Enfin, dans un logiciel de développement comme Affinity ou les produits Adobe.
Ouais. Et c'est quoi relativement abordable?
149€ pour 8 plugins. Qui sont vraiment professionnels. Ça s'adresse aux professionnels ou aux amateurs avancés, mais on n'est pas dans la gamme de prix de DxO Labs 6, par exemple, qui tape tout seul à plus de 150€ et ça permet de faire les effets des possibilités d'émuler des films argentiques. Et les titulaires des versions précédentes peuvent mettre à jour à 79€.
Ok Gilles, merci pour ce coup de cœur. Moi, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur pour une petite équipe. Si je vous dis Extreme Mac, c'est une marque que vous avez forcément déjà aperçue. Vous avez peut-être des accessoires de cette marque. Alors, c'était une marque américaine au départ. Et ce que je ne savais pas, d'abord, c'est qu'elle existe toujours. Et puis, elle a été reprise il y a... presque 10 ans hein, par des francophones. Je sais pas s'ils sont français, mais en tout cas ils sont basés à Luxembourg. Je les ai croisés ce week-end à l'IFA, le salon de l'électronique grand public à Berlin. je suis allé les voir pensant tomber sur des Américains et en fait je suis tombé sur des francophones qui m'ont raconté la belle histoire en quelques mots. Ils font des super produits. J'ai vu les derniers là, avoir été annoncés la semaine dernière et voilà, c'est chouette, ils sont toujours là. J'espère qu'ils seront bientôt nos invités dans iWeek, non seulement pour nous raconter l'histoire mais aussi pour nous parler des produits. Notamment vu un petit hub USB-C tout petit qui rajoute 4 ports, je crois, qui est super pratique. Et puis une housse pour MacBook, une housse en cuir vegan, enfin en sky quoi, à fermeture magnétique. Et au bout de la housse, en fait, il y a sur toute la largeur de la housse, il y a des ports. Et dans la housse, il y a une petite cavité pour mettre un câble USB-C, USB-C. Donc c'est super pratique, des produits très 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 bien pensés. Extreme Mac, petit coup de cœur pour eux, et j'espère qu'on pourra les recevoir très bientôt dans iWeek. On se retrouve mardi prochain en direct pour suivre ensemble en intégralité la keynote iPhone 15 et Apple Watch. Rendez-vous dès 18h30 heure française pour près de 3 heures de live. Pour la suivre avec nous, vous connaissez désormais l'adresse iWeek.news, mais on va probablement diffuser sur d'autres canaux pour avoir le maximum d'interactivité avec vous. Nos tests sont prévus vendredi et donc restez à l'écoute d'iWeek sur les réseaux et de la quotidienne iWeek lundi et mardi pour avoir tous les détails. Merci les amis, Elie Abitbol, Gilles Dounès, François Letruédic. Salut à tous les trois.
Salut.
Bye bye. Bye bye.
Une bise à Fabrice Neumann qui sera de retour pour la keynote. N'oubliez pas patreon.com/iWeek pour nous soutenir. On a besoin de vous. Et suivez-nous donc sur les réseaux @iWeekNews sur X, Twitter et iWeek.news pour nous chercher sur Mastodon et Threads. Partout, un seul hashtag à utiliser, iWeekLSA, pour que nous ne rations aucun de vos messages. Et mardi prochain, ce sera bien sûr iWeek Live. À très vite pour la suite. Passez une bonne fin de semaine, un bon compte à rebours jusqu'à la keynote. On reste au contact avec la quotidienne et à mardi prochain dès 18h30. Salut à tous, bye bye.
Au revoir.
Au revoir.